Alors, le but de ma présentation, c'est plutôt de fixer le cadre général au niveau de l'Union européenne pour que tout le monde voit bien où se situe la politique de formation, à la croisée de quelles préoccupations, de quelles politiques elle se situe, et pour qu'on puisse ensuite avoir les prérequis pour profiter des interventions ultérieures de la journée. Donc, de quoi on va parler ? Ça va commencer très général, puisque je vais juste présenter les institutions, les grandes institutions européennes que vous connaissez probablement déjà. Et ensuite, je vais parler des politiques économiques, premièrement, et de la politique sociale, donc de la conception de la politique économique et sociale au niveau de l'Union européenne. Et enfin, seulement, je viendrai à la question de la formation, puisque, comme vous verrez, elle s'emboîte en fait dans ses préoccupations plus larges. Et en dernier lieu, je viendrai, je dirais un mot de l'alphabétisation en particulier. Alors, les institutions, vous les connaissez probablement déjà, juste un petit rappel comme ça. On a la Commission européenne, la première, qui est peut-être la plus connue. Donc, c'est à la fois un exécutif et à la fois une administration. Il y a des commissaires qui sont des politiques, en fait, qui sont des sortes de ministres. Et il y a aussi les fameux fonctionnaires dont on entend beaucoup parler à Bruxelles. Alors, elle a deux rôles, en fait, principaux. Un rôle d'initiative, celle qui fait les initiatives, qui prend les initiatives, qui émet des propositions pour les politiques futures de l'Union européenne. Et elle a aussi un rôle de contrôle ou de surveillance. Donc, c'est son boulot d'aller vérifier que les règles de l'Union européenne sont bien appliquées par les États membres et dans les États membres. Une deuxième institution, c'est le Conseil. Donc, le Conseil, ça, c'est les États membres. Chaque fois que je parlerai du Conseil, c'est les États membres qui se réunissent. Alors souvent, c'est les ministres qui se réunissent. Selon qu'on parle d'agriculture, c'est les ministres de l'agriculture. On parle d'économie, c'est les ministres d'économie, etc. Alors le Conseil, c'est un organe très important aussi, puisque c'est là qu'on vote les lois, on vote les directives européennes. Mais surtout, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est là qu'on se coordonne. Je vais parler plus tard de la coordination. C'est une enceinte où les pays viennent présenter leurs efforts dans tel et tel domaine politique. Une troisième, c'est le Parlement européen. Alors là, on connaît aussi, puisqu'évidemment, on vote. On vote pour élire directement les députés européens. Et il va peut-être moins nous occuper aujourd'hui, mais on aura quand même des députés européens l'après-midi, donc c'est déjà ça. Parce que le Parlement européen, il vote, il participe à l'élaboration des normes juridiques contraignantes, mais il n'a pas tellement part à la coordination des États dans les matières qui vont nous concerner aujourd'hui. Et une dernière, dont je dirais juste un mot, c'est la Banque Centrale Européenne. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que je ne suis pas compétent et ce ne serait pas intéressant. Simplement, c'est elle qui règle la valeur de l'euro. On va voir que ça a quand même son importance. C'est elle, en fait, qui décide ce que je peux acheter quand j'ai un billet de 10 euros en poche. Voilà, qu'est-ce que je peux me payer avec 10 euros? En gros, c'est la Banque Centrale qui fait ça. Alors, je vous ai mis juste la procédure législative classique. Enfin, en très gros, ça ne représente pas exactement le mécanisme, mais pour qu'on ait une idée. Donc, quand on veut faire une directive, une loi européenne, il y a la Commission qui fait une proposition, et ensuite, le Parlement et le Conseil travaillent ensemble, il y a plusieurs lectures, pour voter, amender, discuter cette proposition et la transformer en norme contraignante. Donc, peut-être que ça, c'est utile à garder en tête pour cet après-midi, pour les interventions des représentants du Parlement européen. Alors, j'en viens aux politiques elles-mêmes. Donc, la politique économique, Sylvie Pinchard a dit que souvent les politiques de formation, maintenant, on avait l'impression qu'elles étaient abordées sous le prisme de préoccupations économiques. Et qu'est-ce que c'est en fait une politique économique ? Voilà, c'est un terme qu'on utilise tout le temps, mais il faut voir exactement ce que ça recouvre. Donc, je pense qu'on peut la diviser en trois gros domaines. Et on va voir un de ces domaines un par un pour voir exactement où est-ce qu'on se trouve. Donc, un premier domaine, c'est la politique monétaire. Ça, c'est ce que je disais. C'est qu'est-ce qu'on peut payer avec l'argent qu'on a en poche, la valeur de la monnaie. Un deuxième domaine, c'est la politique budgétaire. Qu'est-ce qu'on fait avec le budget? On a vu ce week-end que c'était très important. Comment est-ce qu'on fait un budget? Est-ce qu'on est dans les clous? Est-ce qu'on n'est pas dans les clous? Où est-ce qu'on prend l'argent? Où est-ce qu'on le dépense? Tout ça, c'est la politique budgétaire. Et enfin, la politique de l'emploi et du marché du travail. Donc, les salaires, les réglementations, la formation, etc., etc. Alors la première, la politique monétaire, donc je vous disais, c'est la valeur de la monnaie et c'est la banque centrale qui s'en occupe. Et il n'y a pas besoin d'en dire plus pour nos préoccupations d'aujourd'hui. Ce qu'il faut juste noter, c'est que les États qui sont dans l'euro, c'est pas tous les États de l'Union européenne, mais les États qui sont dans l'euro, dont la Belgique, en participant à l'euro, ils ont perdu un gros levier en fait d'action sur leur économie. Pourquoi ? Parce qu'avant, un État qui était en difficulté, comme la Belgique, pouvait relancer son économie en jouant sur sa monnaie. Ça veut dire qu'il pouvait, par exemple, baisser la valeur de sa monnaie, ce qui faisait que les produits qui étaient fabriqués chez lui étaient moins chers, et donc il pouvait les vendre plus facilement, et donc regagner un peu en santé économique. Voilà, c'est pas si important, juste retenez que c'est un levier qui a été perdu, un levier d'action sur l'économie qui a été perdu en intégrant la zone euro. La politique budgétaire maintenant, donc ça je vous le disais, c'est ce qu'on dépense et ce qu'on gagne tout simplement. Hein. Et alors ça, c'est la compétence des États, contrairement à la politique monétaire, c'est toujours les États qui décident, hein, on l'a vu avec les événements de la fin de semaine passée et de ce week-end. C'est toujours les États qui décident, c'est toujours eux qui font le budget, c'est toujours les partis, la coalition, etc. qui négocient pour fixer ses priorités budgétaires. Simplement, c'est très surveillé par l'Union européenne. Comment ? Voilà, le premier moyen de surveillance, c'est que l'Union européenne fait très attention à ce qu'on dépense pas beaucoup plus que ce qu'on gagne. Autrement dit, elle interdit les déficits excessifs. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, simplement, on peut pas trop s'endetter, on peut pas faire beaucoup de déficits pour, par exemple, faire des investissements. Alors, elle surveille ça, et les États qui sont pas dans les clous, de manière répétée, peuvent éventuellement se voir sanctionnés. S'ils ont trop souvent des déficits, si leurs budgets ne sont pas en équilibre, ils peuvent à un moment se voir sanctionnés par la Commission, et le Conseil et les autres États, qui peuvent leur infliger des amendes. Alors ça, c'est un moyen de contrôle. Et un autre moyen de contrôle, et alors c'est tout à fait d'actualité, c'est l'approbation ex ante. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'un État, en fait, il doit faire son budget, faire un projet de budget, et le donner à la Commission pour approbation, pour que la Commission donne son avis. Ça. Et c'est pour ça qu'on a eu toute cette urgence budgétaire ces derniers jours, alors qu'on est seulement à la mi-octobre, tout simplement parce que le 15 octobre de chaque année, c'est le moment où chaque État membre doit envoyer son budget, son projet de budget à la Commission. Donc ça, c'est une forme de contrôle, si vous voulez, à l'avance. Il y a un contrôle a posteriori des déficits et de la dette, et il y a un contrôle en amont concernant, pendant la formation, en fait, le travail du budget. Et ce contrôle, en fait, c'est plus que regarder juste les déficits. C'est plus que regarder juste si le budget est en équilibre, c'est aussi regarder, voilà, quelle est la politique budgétaire. Si vous vous souvenez, on a beaucoup parlé du tax shift, qui était cette mesure pour diminuer les cotisations patronales, les cotisations sociales patronales. Donc voilà, ça c'est une mesure budgétaire qui avait tout à fait les faveurs de l'Union européenne et de la Commission. Donc c'est juste pour vous dire que l'Union européenne ne regarde pas seulement que les comptes sont bien balancés, elle regarde aussi la nature du budget, voilà, qui est-ce qu'on taxe, qui est-ce qu'on taxe pas, où est-ce qu'on prend l'argent, où est-ce qu'on le dépense. Tout ça, c'est sujet de préoccupation et sujet à recommandation, en fait, de la part de l'Union européenne et de la Commission plus spécifiquement. Donc, je vous avais dit que la politique monétaire, on l'a perdue, et la politique budgétaire, on fait toujours notre budget, simplement il y a une marge de manœuvre qui est tout à fait réduite. Il y a une marge de manœuvre tout à fait réduite, même si on vote toujours, on élit nos représentants et ceux qui font le budget, ils ne font pas exactement tout ce qu'ils veulent. Et donc c'est de nouveau, je vous avais dit qu'il y avait trois dimensions à la politique économique, ici encore, il y a une perte significative d'autonomie. Alors j'en viens à mon troisième volet de la politique économique, c'est la politique de l'emploi, et qui vont peut-être plus nous concerner aujourd'hui. Et c'est le seul levier restant, finalement, ces politiques de l'emploi, c'est le seul levier restant pour les États pour agir sur leur économie. Si ça va pas bien, s'ils trouvent qu'il n'y a pas assez de croissance, s'ils pensent que les choses pourraient aller mieux, et c'est le cas, hein, je pense qu'on est d'accord qu'elles pourraient aller mieux, ils doivent agir sur leur politique de l'emploi, sur les politiques du marché du travail, sur les politiques des salaires, etc. Mais là encore, en réalité, ils font pas exactement ça comme ils veulent, puisque l'Union européenne a une doctrine, bien sûr, souvent non contraignante, on va plutôt en parler avec M. Conté, donc je vais pas trop m'avancer là-dessus, mais a une doctrine sur quelles sont les bonnes politiques de l'emploi à mettre en œuvre pour que l'économie aille bien et pour que les choses se passent bien. Alors c'est quoi cette doctrine de l'Union européenne en matière de politique de l'emploi, du marché du travail ? Ben, c'est des choses qu'on a tous entendues, je pense, en regardant les infos, en lisant le journal. C'est premièrement qu'il faut être compétitif, c'est la compétitivité. Donc ça passe surtout par une compétitivité des salaires. En tout cas, on aimerait nous le faire croire. Donc on a beaucoup parlé ces derniers temps, si vous avez peut-être entendu la question de l'écart salarial. On disait, ah voilà, ben, on a un problème d'écart salarial. on n'est pas compétitif par rapport à nos voisins, les Hollandais, les Allemands, etc., puisqu'il y a un écart salarial, les salaires sont trop hauts en Belgique par rapport à nos concurrents directs. Et donc, on a eu par exemple le saut d'index, qui était une mesure visant à restaurer la compétitivité, à diminuer, à résorber cet écart entre nous et d'autres pays, ça va, pour qu'on ne perde pas en compétitivité. Un deuxième volet important pour l'Union européenne, ces politiques de l'emploi, c'est la flexibilité. Alors, flexibilité du travail, on dit, mais c'est la flexibilité des travailleurs aussi. C'est quoi la flexibilité? Ben, c'est le fait que les salaires puissent varier selon les circonstances. Et c'est aussi la flexibilité de tous les régimes de protection du travail. Je sais pas, être licencié plus facilement, être engagé plus facilement. Je sais pas, il y avait Manuel Valls qui a fait scandale l'autre jour. Il a dit, il est allé en Chine, il a dit, venez, c'est facile de licencier en France. Voilà, c'est ça peut-être un peu la flexibilité aussi. Et alors, un troisième volet avec lequel on est très familier à lire et écrire, et donc on va venir progressivement à des questions qui nous préoccupent plus quotidiennement, c'est les politiques actives du marché du travail. Alors, active, là on connaît ça, c'est l'activation. Donc ça peut être l'orientation, hein, le fait qu'on est directement avec un conseiller Actiris dès qu'on n'a plus de boulot. Ça peut être la dégressivité des allocations, ça peut être les sanctions, les contrats, toutes ces mesures qui encadrent le chercheur d'emploi. Et alors bien sûr, ça peut être la formation. Et donc là, doucement, on vient à une finalité, un angle sous lequel la formation est prise au niveau de l'Union européenne. Elle est prise comme une dimension en fait de la politique de l'emploi. Elle-même, cette politique de l'emploi, comme une des seules dimensions pour agir sur la croissance économique, la compétitivité et la bonne santé économique. Alors, la formation, on arrive enfin à quelque chose qui nous concerne un peu plus. Comment est-ce que l'Union européenne conçoit la formation dans un cadre économique? Pourquoi est-ce que c'est important la formation? En fait, il y a plein de finalités différentes, hein, il n'y en a pas qu'une. Donc, j'en ai listé quelques-unes ici, qu'on retrouve dans les documents officiels. Il y a premièrement la compétitivité internationale. Donc la rhétorique, c'est qu'on est au XXIe siècle, on est dans une ère d'accélération technologique. Il faut des travailleurs qui soient bien formés pour qu'on soit compétitif à l'international, face aux Chinois, face aux Américains, etc., pour pouvoir tenir la distance dans une compétition qui va demander de plus en plus de compétences, qui va demander des compétences de plus en plus poussées, de plus en plus variées. Alors, une autre finalité de la formation dans ce cadre-là, c'est les besoins du marché du travail. Il faut qu'il y ait une adéquation entre, d'un côté, la demande en compétences, le fait que ce que le marché du travail a besoin comme compétences, ce que les employeurs ont besoin comme compétences pour fonctionner, et d'un autre côté, l'offre en compétences, et je mets des guillemets, bien sûr, à tout ce que je dis, hein, d'un autre côté, l'offre en compétences, qui est les compétences que les gens peuvent offrir quand ils sont employés. J'entends encore à la radio ce matin, il y avait une étude de Manpower qui fait ça tous les ans plus ou moins, qui disait voilà, les patrons ont, dans 24% des cas, ne trouvent pas les chercheurs d'emploi, les employés futurs, avec les compétences dont ils ont besoin. Donc ça, c'est quelque chose aussi tout à fait d'actualité, et si vous prêtez attention aux nouvelles, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent. Alors, ce qui rejoint ça un peu, c'est le fameux concept d'employabilité, et ça c'est quelque chose avec lequel je pense beaucoup d'entre vous sont familiers. Il faut que les gens soient employables, qu'ils soient prêts à être employés. Il ne faut pas qu'ils soient comme ça incompétents, on pourrait dire. Et il y a aussi une finalité de sécurité. La formation, pour l'Union européenne, c'est aussi une sécurité. Et c'est une sécurité dans le cadre d'une modification de ce que nous, on appellerait sécurité, en fait. Dans le cadre du concept de flexicurité. Alors, j'ai parlé de la flexibilité tout à l'heure. Il faut être flexible, peut-être changer de travail plus facilement, accepter qu'on entre dans une période plus fluctuante, avec moins de certitude, moins de sécurité. Mais d'un autre côté, même si on doit être flexible, d'un autre côté, on a la sécurité de la formation. C'est quelque chose qui va nous permettre de rebondir. Le rôle de la formation, ça doit être de pallier à la flexibilité, en quelque sorte. Et c'est ce concept de flexicurité qui exprime ça assez bien. La formation, c'est aussi un outil de lutte contre la pauvreté, un outil pour l'inclusion sociale, et ça on en parlera avec Maria Arena tout à l'heure. Et enfin, c'est un outil d'activation, ça rejoint tout ce que j'ai dit, mais il ne faut pas laisser les gens qui cherchent de l'emploi sans formation, surtout s'ils en ont besoin. Il faut absolument que tout le monde se forme si les gens en ont besoin. Donc voilà, c'est très bref, c'est juste un petit portrait comme ça. Monsieur Comté en parlera sûrement plus longuement que moi dans l'intervention qui va suivre, juste pour que vous puissiez vous repérer. Le sujet d'intervention de Claude Relin cet après-midi, la nouvelle stratégie en matière de compétences, ce dont il va parler, c'est un projet de stratégie dans ce cadre-là, pour l'emploi et pour une formation qui favorise l'emploi. Donc voilà, juste ayez ça en tête, que quand il va parler de la nouvelle stratégie en matière de compétences, c'est la formation envisagée dans cette perspective-là. Alors, j'en ai fini avec les politiques économiques, mais on voit que la formation, elle est vraiment centrale dans ce cadre économique qui est celui de l'Union européenne. Et j'en viens aux politiques sociales, sur lesquelles je serai plus bref, notamment parce que j'ai seulement une demi-heure et que c'est moins intéressant, mais aussi parce que, en fait, elles sont pas si contraignantes que ça, les politiques sociales, elles sont beaucoup moins contraignantes que les politiques économiques. Donc, il y a des objectifs, en fait. L'Union européenne fixe des objectifs en matière sociale. Par exemple, pour 2020, il faudrait qu'on ait sorti 20 millions de personnes du risque de pauvreté. Voilà, c'est ça, encore aussi d'actualité. À la télé, hier, j'ai vu, un Belge sur 5 est à risque de pauvreté. C'est un indicateur, hein, c'est calculé d'une certaine manière. Il faudrait sortir 20 millions de personnes du risque de pauvreté pour 2020. C'est un objectif social, disons, de l'Union européenne. Il y a des objectifs en matière d'enseignement. Par exemple, diminuer l'abandon scolaire. Voilà, il faut diminuer l'abandon scolaire. Il y a des indicateurs qui sont là aussi fixés. Et il y a aussi des objectifs en matière d'enseignement supérieur. Il faut augmenter la part des diplômés du supérieur. Bon, il y a aussi tout un tas d'objectifs en matière de formation des adultes, mais je ne m'attarde pas là-dessus. Simplement, il y a des objectifs, des défis, des challenges qui sont mis en œuvre pour essayer d'agir sur les matières sociales. Mais comme je disais, le problème avec ça, c'est que c'est non contraignant, souvent, alors qu'on a vu que les politiques économiques, là, elles sont dans un cadre beaucoup plus serré. Et on peut aussi se poser la question du modèle, en fait. Qu'est-ce qu'on entend par social? C'est quoi une politique sociale pour l'Union européenne? Est-ce que c'est vraiment ce que nous, on entend par social? Donc là, je pense que, de nouveau, peut-être que M. Comté pourra nous éclairer. Et on pourra aussi en parler avec Mme Arena cet après-midi, puisqu'elle va nous présenter le socle européen des droits sociaux. C'est quoi ça? C'est une actualité. En fait, la Commission dit... Voilà, elle reconnaît que la politique sociale est le parent pauvre un peu des politiques européennes. Elle nous dit, voilà, je propose une nouvelle initiative, le socle européen des droits sociaux, pour donner plus d'importance, rééquilibrer et donner plus d'importance à la politique sociale. Donc, juste garder en tête, pour bien situer, que c'est de ça que Maria Arena va parler cet après-midi. Et on pourrait réfléchir, voilà, finalement, quel est le modèle social qui est à l'œuvre? Est-ce que ce sera vraiment plus contraignant? Est-ce que ça va vraiment faire l'affaire? Voilà, c'est toutes des questions qu'on pourrait se poser. Simplement, notez que les politiques de formation, et c'est pour ça que je parle de politiques sociales, elles sont aussi énormément abordées sous le prisme social. C'est aussi très important pour l'inclusion sociale, pour la pauvreté, etc., etc., etc. Bon, alors maintenant qu'on a vu ces politiques très larges, on peut se demander comment c'est mis en œuvre, parce que j'ai parlé des institutions, j'ai parlé des politiques dans un sens large. Comment est-ce que c'est mis en œuvre? Alors, c'est assez particulier, et c'est là que c'est un peu compliqué qu'on peut se perdre, c'est que souvent, on comprend pas très bien comment ça se passe, parce que c'est encore des compétences qui sont du ressort des États le plus souvent. J'ai dit, le budget, c'est quand même les États qui les font, les politiques du marché du travail, c'est les États qui les font. Si on veut faire la dégressivité du chômage, c'est pas la Commission qui va le faire, c'est Charles Michel, ça va. Donc c'est encore les États qui sont à la manœuvre. Simplement, comme on veut agir sur ces questions, sur le budget, le marché du travail, la formation, ben... on va mettre en place un processus de coordination. Qu'est-ce que c'est? C'est une forme de cycle qui se déroule tous les ans, en fait, sur une année, où tous les États, avec la Commission, se coordonnent leur action pour agir dans le sens voulu, dans le sens exprimé par les politiques dont j'ai parlé plus haut. Alors, comment ça se passe? Ben, on fixe des grands objectifs, hein, je vous ai donné des exemples. On fixe des indicateurs, il faut quand même mesurer si on a atteint ces objectifs ou pas. Et on donne des grandes lignes directrices, on dit voilà, ben, en gros, c'est ça qu'il faudrait faire. Il faut plus de formation, plus de flexibilité, plus de compétitivité, etc., etc. Ensuite, chaque État fait un plan d'action, et chaque année, les États, ils font un plan d'action avec leur budget, ce qu'ils vont faire en matière économique, ce qu'ils vont faire en matière sociale, qu'est-ce que je vais faire, moi, la Belgique, par exemple, et moi, la région Wallonne, etc. Juste une petite parenthèse, les plans d'action des entités fédérées sont souvent intégrés. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour atteindre ces objectifs et s'améliorer, en quelque sorte, être des bons élèves? Ça aussi, c'est une expression qu'on entend beaucoup, hein, le bon élève, le mauvais élève de l'Union européenne. C'est un peu dans ce cadre-là, hein, qu'on en parle. Alors, on fait un plan d'action, et ensuite, la Commission et les autres États membres font des recommandations. Ils disent, voilà, ton plan, il est pas mal, mais ça et ça et ça, tu devrais regarder, tu devrais changer, etc. Et fin d'année, on fait un bilan, la commission fait un bilan, à la fois budgétaire, elle regarde, voilà, est-ce que le budget est dans les clous, est-ce qu'on a dépensé plus que ce qu'on a gagné, etc., etc. Et aussi, elle fait un bilan de l'action politique, l'action des politiques économiques, les marchés du travail, les politiques sociales, où en est chaque État, est-ce qu'il a été un bon élève, un mauvais élève, etc. Alors, là où ça se corse un peu, c'est qu'elle peut émettre des sanctions, normalement, seulement pour le budget, et le reste des politiques économiques, le marché du travail et tout ça, et les politiques sociales, tout ça, c'est un champ où elle ne peut pas vraiment sanctionner l'État. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais disons que schématiquement, on peut dire ça comme ça. Simplement, ce qui se passe, c'est que comme beaucoup d'États sont hors les clous budgétairement, les États ne respectent pas les règles budgétaires. Pourquoi ? Parce que c'est la crise, hein, comme vous le savez. On n'a pas d'argent. Beaucoup d'États ne respectent pas les règles budgétaires. Et qu'est-ce que fait la Commission, souvent, et les autres États membres ? Ils ferment les yeux sur ces déficits budgétaires en échange de ce qu'on appelle des réformes structurelles. Et ça, vous avez déjà aussi beaucoup entendu, ça, les réformes structurelles, en échange de réformes sur d'autres matières. Donc voilà, en gros, ok, ton budget n'est pas en équilibre pour la énième fois, mais tu fais des réformes en matière de marché du travail qu'on apprécie, tu fais le tax shift, tu fais la loi Macron en France, hein, ça aussi, vous avez peut-être entendu parler, tu fais des réformes de marché du travail, etc., etc. Donc, on est d'accord avec ça et on ferme les yeux sur ton déficit budgétaire. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, la Commission, elle a une influence, et les autres États membres, hein, je dis la Commission, mais c'est les autres États membres aussi, ont une influence beaucoup plus large, en fait, que juste sur le budget, puisque, ad minimo, ils peuvent demander des réformes dans toute une série de domaines variés. Et donc, peut-être à l'avenir, y compris sur la formation. Juste, en tout cas, c'est un sujet de préoccupation, puisque la formation des adultes apparaît dans la majorité des recommandations faites par la Commission aux États. C'est un volet qui se retrouve très très fréquemment. Voilà, tu devrais faire ça en matière de formation, attention à la formation, etc., etc. Voilà, je vous ai mis un petit dessin pour que ce soit un peu moins rébarbatif. On voit Barroso là, qui est en position de supériorité par rapport à François Hollande. Barroso qui est l'ancien président de la Commission, qui est maintenant à Goldman Sachs. Hollande apeuré, et Barroso lui dit « On accorde à la France un sursis de 2 ans parce qu'on apprécie qu'elle veuille simplifier ses administrations pléthoriques. » Donc voilà, c'est un petit cartoon qui illustre précisément ce mécanisme-là. Voilà, est-ce que Hollande s'apprêtait déjà à simplifier ses administrations pléthoriques, ou est-ce que c'est Barroso qui lui souffle l'idée ? Ça, le dessin ne le dit pas. Alors j'en viens maintenant à le point qui va nous occuper enfin, c'est-à-dire l'éducation et la formation des adultes. Je reprends cette locution « éducation et formation » parce que c'est celle-là qu'on trouve au niveau européen. Et donc vous voyez maintenant, hein, et j'espère que c'est clair, qu'elle se trouve à la croisée d'un tas de finalités, d'un tas de contextes qui sont potentiellement contradictoires. Et elle a gagné vraiment en importance. C'est devenu un sujet de préoccupation au niveau de l'Union européenne depuis environ la moitié des années 90. C'est vraiment devenu un sujet de préoccupation extrêmement important. Simplement, c'est encore une compétence des États. Et donc, l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle fait quand c'est encore une compétence des États ? Ben, elle doit appuyer, coordonner et compléter l'action des États. Elle doit les aider, les orienter, les pousser, les tirer vers une certaine direction chaque fois qu'ils veulent réformer leur système de formation. Et donc, pour faire ça, elle a développé une activité très importante, par toute une série de mécanismes qu'on va un peu aborder maintenant. Mais d'abord, avant d'aborder les mécanismes, juste un mot de la doctrine de l'Union européenne très largement sur la formation des adultes. Il y a ce concept dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le concept de lifelong learning, ça veut dire apprentissage tout au long de la vie en français. Et l'Union européenne et la Commission nous disent, voilà, il faut absolument mettre un système en place, un système d'apprentissage tout au long de la vie. C'est hyper important, c'est ça que les États doivent faire. Ils doivent se réformer en matière de formation pour vraiment qu'il y ait un système d'apprentissage tout au long de la vie, qu'on puisse se former tout au long de la vie, du berceau à la tombe, disent les Anglais, même si c'est un peu glauque comme expression. Alors qu'est-ce que ça veut dire, l'apprentissage tout au long de la vie, concrètement ? Ça veut dire, d'une part, l'harmonisation. Il faut, en fait, que les différents opérateurs de formation, les différentes formations proposées, soient intégrées les unes dans les autres, à la fois au niveau d'un seul pays et au niveau de tous les pays européens, pour que, en pratique, vous et moi et n'importe quel adulte, nous puissions nous former de manière continue. Si maintenant j'ai fait un module de formation chez un opérateur, et que demain, après avoir perdu mon boulot ou en voulant me perfectionner, etc., je veux poursuivre ma formation ailleurs, il faut que tout soit bien intégré pour que ma formation précédente soit bien reconnue et que je puisse directement sauter dans la suivante et voir mon parcours bien reconnu, voir mon parcours bien homologué et que ça puisse être fluide et que je ne me retrouve pas bloqué à un moment parce que, par exemple, je sais pas, moi, on était en promotion sociale et on voudrait faire un master, mais que la promotion sociale, ça compte pas et voilà. Alors, ça, c'est l'harmonisation, l'intégration. Il faut qu'il y ait un parcours fluide. Deuxièmement, l'apprentissage tout au long de la vie, c'est aussi des réformes pour améliorer. J'ai pas mis de guillemets à amélioration, mais j'aurais pu en mettre. C'est une certaine conception, évidemment, de l'amélioration des politiques de formation, dont on pourra parler plus avant, mais il faut les améliorer pour qu'elles soient plus efficaces. Alors, comment on fait ça ? Ben, la formation, je vous ai dit, ça reste une compétence des États. Mais, simplement, il y a tous des processus de coordination. Elle est déjà abordée au niveau de la coordination de la politique économique et sociale, et elle est aussi abordée plus spécifiquement dans un processus de coordination spécifique qui réunit plutôt des fonctionnaires, quelques des responsables, etc., qui est spécifiquement consacré à l'éducation et à la formation. Et là, il y a des groupes de travail, si vous voulez, qui se font, et où on traite toute une série de sujets. Je pense qu'on a des représentantes de la communauté française dans la salle. Il y a toute une série de sujets qui sont discutés. Par exemple, voilà, la qualité, qu'est-ce que c'est une bonne formation, le financement, comment est-ce qu'on finance, quel financement demander, la cohérence, voilà, est-ce que les différents opérateurs, les différents types de formation sont cohérents ou est-ce qu'on risque de se retrouver bloqué à un moment dans notre vie, la participation, comment ça se fait qu'il y a tellement peu d'adultes qui participent, notamment des adultes défavorisés ou peu instruits qui participent, ça c'est un vrai problème. Les compétences de base qui nous concernent aujourd'hui. Voilà, tout ça, c'est des thématiques qui sont traitées dans ces groupes de travail. Et quelle est l'influence exactement de ça ? Ben, c'est difficile à dire. En tout cas, il y a certainement une manière de poser les problèmes, peut-être une communauté de vue qui se crée. C'est, si vous voulez, rien que le fait de travailler ces problèmes leur fait gagner en vision, leur fait gagner en visibilité. Et c'est des thèmes, du coup, qui viennent à l'agenda, qui passent à l'agenda, si vous voulez. Et ces groupes de travail ensuite font des recommandations aux décideurs qui peuvent être reprises après et prendre différentes formes de manière ultérieure. Alors, à part les groupes de travail, il y a un deuxième moyen pour influencer les États quand ils font des réformes, pour les aider à réformer leur système de formation, toujours dans le sens de plus d'harmonisation et de plus d'efficacité, disons, c'est des instruments faits par l'Union européenne. Et ces instruments, ils sont non contraignants et ils viennent en appui des réformes des États. Si je veux réformer, je suis un État, je veux réformer mon système de formation, j'ai déjà des documents en fait qui sont prêts, qui sont non contraignants, mais qui sont prêts pour m'aider à effectuer ces réformes. Et ces documents, ils connaissent un grand succès, même s'ils sont non contraignants, ils sont transposés, hein, par exemple en Belgique, ils sont utilisés de manière vraiment extensive. Sylvie Pinchard parlait du cadre européen des langues. Ben voilà, c'est un bon exemple. C'est non contraignant. Et maintenant, c'est utilisé partout, de toutes sortes de manières. Hein, je vais en citer quelques exemples, mais ce qu'on peut voir, c'est que même si c'est non contraignant, il y a un impact cognitif, on pourrait appeler ça. C'est une manière de poser le problème qui, après, fait norme en réalité. Alors, quelques exemples d'instruments comme ça pour que vous ayez une idée, même si ce sera le sujet de notre prochaine journée le 18 novembre. Voilà, il y a par exemple le cadre européen de certification. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un document qui liste 8 niveaux de certification, avec pour chaque niveau ce qu'il faut savoir, les compétences qu'il faut avoir, etc. Et qui permet, après, s'il est transposé par chaque pays, de savoir, ben, tel opérateur, il délivre une formation au niveau 3, par exemple. Et donc j'ai ma formation, moi, de niveau 3, et je pourrai plus facilement, après, aller à une formation qui sera de niveau 4. Je serai reconnu niveau 3, disons, par exemple. Et je pourrais passer d'un opérateur à l'autre. Le but, c'est toujours de fluidifier les parcours. Il y a par exemple un cadre pour l'assurance qualité. Qu'est-ce que c'est ça ? Mais c'est un cadre qui donne des critères en fait pour évaluer ce qu'est une bonne formation, pour évaluer la qualité d'une formation. Donc c'est un peu le job de l'inspection, si vous voulez, hein, l'inspection qui vient voir par exemple dans les écoles si le travail est bien fait. Ben, l'inspecteur, il pourrait venir avec son cadre. Voilà, pour caricaturer un peu, en disant, voilà, les formateurs sont bien formés, il y a une forte participation, les gens qui sortent de cette formation trouvent du boulot, il y a la plupart des gens qui finissent la formation, qui n'abandonnent pas au milieu, etc., etc. Donc, tous des critères qui évaluent la qualité d'une formation. Il y a aussi la validation des compétences, et ça, ça a aussi eu un gros succès, hein, c'est non contraignant, mais en Belgique, c'est bien suivi. Ça, c'est un mécanisme. L'Union européenne a dit, voilà, il faut mettre en place des mécanismes pour que les gens qui ont des compétences qu'ils ont acquis dans le non formel ou dans l'informel puissent les faire valider, puissent les faire reconnaître. Et donc, il y a des mécanismes comme ça en Belgique, et là encore, on a quelqu'un dans la salle, qui permettent de faire valider un certain nombre de compétences qu'on aura acquis par soi-même ou dans le non-formel. Voilà, je ne vais pas citer d'autres exemples. Il y a aussi un cadre pour les compétences clés. Il y a la garantie pour la jeunesse, que vous connaissez peut-être, dont on pourra peut-être parler après. Voilà, il y a, c'est des exemples comme ça d'instruments qui sont non contraignants, mais qui influencent fortement, qui font norme en réalité. Alors, j'ai presque fini. Juste sur l'alphabétisation, puisque c'est quand même de ça qu'on a envie de parler aujourd'hui. J'ai parlé de la formation des adultes et l'alphabétisation, elle se situe dans cette formation des adultes. Elle se situe dans cette formation des adultes et comment est-ce qu'on appelle ça dans l'Union européenne ? On parle de compétences de base. L'alphabétisation, souvent, on parle de compétences de base et ça recouvre ça, disons, comme pour nous, le CEB, le niveau du CEB, mais peut-être un peu plus haut jusqu'au secondaire inférieur, disons. Alors, comme je disais, bien sûr, elle est concernée par tout ce que j'ai dit avant, mais il y a des choses spécifiques qui sont faites en matière d'alphabétisation, qui sont notamment de l'ordre de la coordination, notamment de l'ordre de la mise à l'agenda, si vous voulez, de l'alphabétisation et de la question des compétences de base pour inciter les États à se réformer. Alors, il y a plein de choses qui ont été faites ces dernières années. Il y a, par exemple, toute une série de déclarations qui ont eu lieu sur l'alphabétisation de la part des institutions en disant, voilà, il faut vraiment faire quelque chose pour améliorer la question de l'alphabétisation. Un groupe d'experts a été nommé, je crois que c'était en 2010, qui a fait des recommandations très générales sur la question, en tirant la sonnette d'alarme en réalité, en disant voilà, il y a un problème de ce côté-là en Europe, il faut agir. Il y a un réseau spécifique qui s'appelle Elinet, qui a été créé par la Commission, qui rassemblait, maintenant qui a fini son travail, qui rassemblait des décideurs, des experts, etc. Et qui devait produire toute une série de rapports sur, par exemple, quelles sont les politiques dans chaque pays. C'est un très gros travail qui a été fait. Une série de rapports, une série de recommandations, là encore, une série d'études, là encore pour vraiment faire monter la question à l'agenda. Il y a tout le travail de coordination dans les stratégies dont je vous ai parlé, et notamment un rapport qui a été fait, je crois, en 2015 sur la question, dans les groupes de travail dont j'ai parlé tout à l'heure sur l'éducation. Et dernièrement, là peut-être que c'est plus mordant, il y a ce projet de garantie pour les compétences. Alors, je vous en parle maintenant puisque ce sera une partie de la question que Claude Relin va aborder cet après-midi. C'est quoi la garantie pour les compétences ? Ben, c'est une proposition de la Commission. Vous connaissez peut-être la garantie pour la jeunesse. La garantie pour la jeunesse, c'est quoi ? C'est, voilà, aucun jeune de moins de 25 ans ne doit être laissé sans emploi, sans éducation et sans formation. Donc, c'est ça, hein ? Ouh, pardon. Oui, pardon, pas tout, pas les trois à la fois, oui, bien sûr. Sinon, ce serait peut-être un peu trop, il y aurait des burn-out. Donc voilà, où alors, la garantie pour les compétences, c'est un peu la même idée, mais pour les adultes de plus de 25 ans qui ont des lacunes, qui présentent des lacunes en compétences de base. Donc, j'ai pas dit compétences de base, c'est écriture, lecture, calcul et technologie, l'information et la communication pour l'Union européenne. Et donc, qu'est-ce que dit le projet de garantie pour les compétences dont Claude Relin va parler cet après-midi ? Il dit, ben voilà, il faudrait laisser aucun adulte de plus de 25 ans sans formation. Tous ceux qui ont des lacunes doivent se voir offrir, premièrement, une orientation, un test de niveau, deuxièmement, une formation, et troisièmement, une possibilité de valider les compétences qu'ils auront acquises. Donc ça, c'est peut-être un assez gros changement, puisque pour l'instant, on peut valider seulement des compétences métiers, mais là, on pourrait peut-être valider aussi des compétences de base. Bon, bien sûr, c'est déjà possible. On peut déjà passer le CEB en communauté française de manière externe, donc peut-être que ce sera suffisant. Mais voilà. Donc ça, c'est un projet qui concerne tout à fait l'alphabétisation et qui est en cours. Il n'est pas encore approuvé, mais il est en cours de discussion et Claude Relin nous en dira un peu plus cet après-midi. Voilà, donc je ne vais pas conclure de trop puisqu'on n'est qu'au début de la journée. Je pense que peut-être l'intervention suivante va éclairer un certain nombre de points. Simplement, juste noter que la formation des adultes et l'alphabétisation occupent une place centrale dans les préoccupations de l'Union européenne et qu'elles sont à la croisée de tout un tas de finalités diverses et variées qu'en fait, il faut avoir en tête si on veut comprendre les mesures qui sont prises et les recommandations qui sont faites. Alors, juste quelques pistes de réflexion pour les interventions qu'on va entendre plus tard. Voilà, finalement, est-ce que c'est positif ? Est-ce que c'est négatif ? C'est difficile à dire. Il y a du positif, je pense. Il y a pas mal de financement. Il y a la question de la reconnaissance, la question de la validation, la question du fait que toutes ces questions-là sont à l'agenda. Tout ça, c'est peut-être positif. Et puis, il y a les risques aussi que Sylvie Pinchard a mentionné. Peut-être des pressions, une prise de contrôle, une dénaturation, etc. Peut-être des choses dont vous faites l'expérience aussi dans votre travail au quotidien. Juste encore un autre petit point d'attention. On a listé toutes sortes de finalités tout à l'heure de la formation dans la politique économique. Voilà, moi j'ai envie de poser la question de notre public à nous, le public d'alphabétisation. Est-ce que vraiment c'est ce public-là qui va rendre l'Europe plus compétitive contre la Chine? Est-ce que c'est ce public-là qui va faire que le chômage va se résorber? Ou est-ce que c'est un public qui est condamné à une sorte de contrôle ou d'activation comme ça, sans trop de but? Est-ce que vraiment toute cette rhétorique s'applique à notre public? Voilà. Merci beaucoup.